sortie de boîte.
Ça fait plus de 130 ans qu'elle produit des montres Swiss Made assemblées à la main. L'entreprise à laquelle on s'intéresse aujourd'hui exporte des garde-temps dans une septantaine de pays. Elle est mondialement connue et reconnue, mais c'est bien dans l'arc jurassien qu'elle a toujours été installée. D'abord à Bienne, puis dans les années 80, dans le village des Genevais, aux Franches-Montagnes. C'est là, au siège de la boîte, que j'ai rencontré le patron de cette manufacture. Un patron pas comme les autres, puisqu'il a commencé sa carrière dans un tout autre domaine que l'horlogerie. Notre invité a en effet été joueur de tennis professionnel pendant 8 ans, à la fin des années 90. Il a notamment participé à la Coupe Davis avec l'équipe de Suisse ou encore aux qualifications pour Roland-Garros et l'US Open. Et petite anecdote, il a battu Roger Federer deux fois en l'espace d'une semaine. C'était en 1997 à l'occasion d'un tournoi en Suisse. Et paraît-il même que lors d'un entraînement, il a fait pleurer le Balois qui est aujourd'hui un de ses amis proches. Alexandre Strambini, bonsoir.
Bonsoir.
Sortie de boîte, Alexandre Rosset.
Alexandre Strambini, vous êtes président d'Edox depuis quelques années. Ça fait toutefois 20 ans que vous travaillez au sein de l'entreprise familiale. Vous y êtes entré juste après avoir arrêté le tennis. Qu'est-ce qui vous a poussé à stopper votre carrière dans ce sport ?
Ouais, c'est une suite de choses, c'est des circonstances qui fait qu'un jour ou l'autre, vous commencez à vous poser la question à savoir qu'est-ce que vous allez faire après votre carrière de sportif. Et puis je pense dès le moment où vous commencez à vous poser certaines questions, vous êtes plus 100% focus sur ce que vous devez faire et c'est mieux de passer à autre chose.
Et vous avez toujours eu envie de travailler dans l'entreprise familiale? C'était déjà dans un coin de votre tête depuis longtemps?
Mais je dois avouer que j'ai jamais réfléchi ou pensé à faire autre chose. J'ai toujours alors je sais pas pourquoi et quelle est la raison de ça, mais je me suis toujours dit qu'un jour j'allais travailler dans l'entreprise familiale. Honnêtement, je ne me suis jamais posé la question de savoir qu'est-ce que je pourrais faire d'autre.
Il n'y a jamais d'autres domaines qui vous ont intéressé?
Mais il y a plein de domaines qui m'intéresseraient, tout ce qui touche à la nature, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais c'est jamais entré en ligne de compte pour en faire un métier, quoi. C'était clair pour moi que j'allais dans l'entreprise familiale.
Alors vous avez passé 8 ans dans le monde du tennis professionnel. Qu'est-ce que vous a apporté ces 8 années ?
Bon, bah c'est, on vit un peu dans un autre monde hein, quand on fait du sport à un niveau professionnel. On n'est pas trop connecté à la réalité, on apprend déjà à se connaître, on apprend à faire face à certaines situations qui sont des fois pas très facile, on arrive à... Voilà, je parle du tennis, quand vous faites des tournois, vous perdez en principe chaque semaine, à part si on s'appelle Federer, quoi. Mais, donc après, il faut, quand vous perdez, il faut se remettre à l'entraînement, la semaine suivante, il faut enchaîner dans un nouveau tournoi, donc c'est... Voilà, peut-être qu'un enseignement que cette parenthèse dans ma vie ou cette autre vie m'a apporté, c'est que voilà, il y a un échec, mais là, ça continue et il faut regarder en avant, quoi. Il ne faut pas trop regarder en arrière.
Quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit, ça permet aussi, ça vous a appris à oublier rapidement les choses négatives, si on veut, à passer sur des choses qui nous arrivent dans la journée.
Alors, je le remarque au quotidien avec mes collègues, quand on discute de certaines choses qui se sont passées, il y a même des fois assez peu de temps. Je m'en souviens pas vraiment, quoi. Donc c'est vrai que mais c'est bien pour moi, mais des fois c'est pas très bien non plus, parce que voilà, j'oublie certaines phrases, certaines choses qui ont été dites assez facilement, peut-être trop facilement même.
Et alors le passage du monde du tennis à celui de l'entreprise horlogère, ça a pas été trop difficile ?
Ouais, alors c'était un changement de rythme de vie, quoi. J'entends, quand vous faites du tennis, voilà, vous êtes un petit peu votre propre chef. Après que vous entrez dans une entreprise, il y a quand même des cadres qui sont donnés. Il faut s'adapter à cette nouvelle donne, à ce nouveau rythme de vie. C'est une autre fatigue aussi, hein. C'est une autre concentration. Donc c'est tout un nouvel apprentissage. Donc oui, c'était facile parce que j'étais dans l'entreprise familiale. Donc forcément, c'est plus simple que d'entrer dans une entreprise où j'avais pas un lien avec le patron. Mais c'est vrai que c'était quand même un changement assez important, quoi.
Justement, le fait de reprendre, vous avez repris petit à petit la place de votre père, ça n'a pas été compliqué à se faire une place au sein de l'entreprise ?
Bah forcément que vous êtes toujours comparé à votre père. Hein. Il y a également ma sœur donc qui fait partie de l'entreprise, qui est aussi la direction de l'entreprise. Et forcément qu'on sera toujours comparé à ce que notre père a fait. Hein. Il n'y a aucun échappatoire à ça. Mais au bout d'un moment, ben on s'y fait, on fait notre chemin, on fait notre chose. On a nos façons de réagir à certaines choses qui fait que ben voilà, on devient ce qu'on est. Et on n'est pas la copie de notre père.
Alors on va à présent s'intéresser à votre entreprise en tant que telle. On l'a dit, la marque Edox existe depuis plus de 130 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment elle a vu le jour à l'époque donc ?
Ben, il y a 135 ans, je crois qu'une dame a demandé à son mari de lui créer un bijou. Et cet homme, Christian Rouffry-Fleury, a décidé de lui faire une montre de poche. Et il a un petit peu réfléchi comment appeler cette montre. Et il a trouvé le nom Edox, qui en ancien grec veut dire mesure du temps. Et en fait, c'est comme ça qu'une simple et bête histoire d'amour a vu naître la marque Edox.
Et alors l'entreprise était à la base, enfin la marque Edox était à la base installée à Bienne. Votre père a racheté cette marque justement, il l'a déplacée au Genevais dans les années 80. Pourquoi ce choix ?
Alors je pense qu'il faudrait lui demander à lui pour connaître la vraie raison. Mais je pense que mon père a toujours été quelqu'un qui voyait les opportunités qui se présentaient à lui. Dans le rachat des Edox, il y avait une opportunité qui était claire à ses yeux. Il y avait plusieurs marques qui étaient sur la table. Hein, il m'a déjà raconté, ce n'était pas que Edox qui était dans le paquet. Il y avait plusieurs marques qui étaient à vendre. Du groupe Azuag, qui était l'ancien Swatch Group. Ça s'appelait Azuag avant. Et il y a quelques marques que le propriétaire de Swatch Group voulait vendre. Et Edox faisait partie de ce paquet de marques à vendre et mon père a saisi l'opportunité d'acheter cette marque qui avait dans les années 60-70 une grande notoriété.
Il y avait aussi pas mal d'employés, plusieurs centaines à l'époque biennoise. Aujourd'hui vous êtes une trentaine sur le site des Genevais. Votre père avait la volonté de conserver une structure vraiment familiale ?
Oui, ben quand vous êtes entrepreneur et que vous avez une entreprise à diriger, vous vous rendez vite compte que il faut continuer, il faut essayer de gérer son entreprise et de garder un certain contrôle sur ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, et après, gérer un grand nombre de collaborateurs implique une certaine organisation qui n'est pas la nôtre actuellement. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle il a toujours voulu garder l'entreprise à une taille modeste.
Alors Edox a joué un certain rôle dans l'histoire de l'horlogerie. L'entreprise a sorti plusieurs premières mondiales. Sur quels aspects Edox s'est particulièrement distingué par le passé ?
Alors bon, si on regarde un petit peu dans l'histoire, il y a eu dans les années 60 une montre qui s'appelait, une collection qui s'appelait Delphine. C'était une montre qui avait une grande étanchéité pour l'époque. La marque avait même breveté des couronnes avec un double joint pour justement permettre une meilleure étanchéité. Donc c'était, à l'époque, c'était quelque chose d'assez reconnu. C'est ça qui a aussi fait la notoriété de la marque. Et après, quand mon père a racheté la marque en 1998, on avait à disposition, en exclusivité pour Edox, un mouvement avec calendrier qui était le plus plat au monde. Donc voilà, il y a eu ça, c'est les deux faits marquants, je dirais, de l'histoire d'Edox.
Alexandre Strambignon va maintenant se rendre au Genevais et entrer dans le cœur d'Edox. Jean-Michel Probst a découvert il y a quelques jours l'entreprise en compagnie de Cyril Bonini, le responsable marketing et relations presse. Lui a notamment fait visiter l'atelier où se déroule l'assemblage de montres et le contrôle étanchéité, l'un des atouts de votre marque. Reportage.
Sortie de boîte.
Donc pour un client, Ungaro, ça c'est sauf erreur la Hongrie. Donc c'est des montres qui doivent être faites assez rapidement pour pouvoir les envoyer. Donc là c'est Christine qui travaille sur un assemblage pour mettre de l'emboîtage, donc pour mettre le cadran en mouvement dans les boîtes. Donc toujours bien vérifier qu'il n'y ait pas de poussière. Et je vais peut-être passer le mot à Christine qui va vous expliquer vraiment ce qu'elle fait.
En fait, ce que je vais faire là, c'est que je vais emboîter cette pièce pour ensuite pouvoir couper la tige à la bonne longueur pour que la couronne de la mise à l'heure soit à fleur de la boîte. Mmh. Et ensuite, bah, je vais toutes les fermer, lunettes et fond. Et ensuite, bah, les passer à l'étanchéité pour voir si elles sont OK.
Cyril Bonini disait tout à l'heure qu'il faut le faire rapidement parce qu'il va falloir envoyer ses montres en Hongrie. Il peut y avoir parfois des moments de stress, des moments où c'est un petit peu plus chaud.
Oui, et puis c'est un peu ça que j'aime bien, moi. C'est quand quand il y a un petit peu de l'adrénaline, du stress, des pièces urgentes. C'est vrai que j'apprécie beaucoup ça.
Cyril Bonini, vous avez parlé d'étanchéité.
Oui, alors on a plusieurs machines qui nous permettent de faire des tests d'étanchéité. Donc les tests d'étanchéité les plus courants se font jusqu'à 100 mètres ou 200 mètres. On a des machines un peu plus petites qui permettent de vérifier la pression et l'étanchéité de ces modèles-là. Et ensuite, on va passer dans une autre pièce où on pourra vérifier des étanchéités qui sont beaucoup plus grandes, notamment pour les montres de plongée qu'on fait jusqu'à 1000 mètres. À savoir que cette année, on a sorti une montre qui était étanche jusqu'à 1000 mètres. Donc, au-delà d'avoir des spécificités techniques d'une plongeuse comme des verres assez épais, des caisses vissées, on va aussi faire des tests d'étanchéité sur une machine qui permet de faire l'étanchéité jusqu'à 1600 mètres.
Mais là, je contrôle l'étanchéité d'une montre. Mm-hmm.
Donc, comment ça se passe ? Vous l'avez mis sur une espèce de plaque ?
Oui, c'est une chaufferette, une plaque chauffante. Mm-hmm. Avant, on la passe dans la machine. Ici, c'est une machine qui va simplement mettre l'eau à l'intérieur de la machine sous pression, mm-hmm. à la pression qu'on a définie, donc qui équivaut à la profondeur d'étanchéité de la montre. Elle va rester un certain nombre de minutes à plusieurs profondeurs. Et ensuite, on met la montre à chauffer. Parce que si la montre en fait, n'est pas étanche dans l'eau, l'air à l'intérieur de la montre, soit il y a de l'eau, ou alors l'air va se charger en humidité. En la chauffant, on va simplement vaporiser cette humidité. Et ensuite, on va mettre une goutte d'eau froide sur la glace pour créer un choc thermique. Et si une buée se crée sous la glace, simplement la montre n'est pas étanche. S'il n'y a pas de buée, elle est étanche.
Sortie de boîte.
Alexandre Strambini, le contrôle étanchéité, c'est l'un des atouts des docks, c'est quelque chose que vous savez bien faire. Est-ce que c'est important pour vous que l'entreprise se concentre sur son savoir-faire traditionnel finalement ?
Alors ça, c'est les gens du marketing qui vont vous dire qu'il faut toujours reprendre des choses historiques d'une marque pour on va dire, asseoir ce savoir-faire. Donc oui, après ça dépend des modèles. S'il y a des choses effectivement où, ben voilà, vous allez me dire, on fait une montre à 1000 mètres ou 1500 mètres d'étanchéité, ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Mais c'est un gage de qualité et un certain savoir-faire qui est effectivement important pour nous en tout cas.
Au niveau du mouvement justement de la montre, là vous cherchez pas forcément à innover, à développer de nouvelles choses, mais vraiment de vous concentrer sur la base, si on veut.
Ben alors c'est des stratégies, c'est des décisions qui sont prises. Voilà, une marque comme la nôtre, une entreprise de la taille de la nôtre, si vous voulez commencer de vous aventurer dans des innovations au niveau des mouvements, au niveau du matériel, ça demande énormément de ressources et de longues années de tests et de mise au point, ce qui est clairement quelque chose qu'on peut pas vraiment se permettre.
Par contre, au niveau du design, là, c'est là peut-être que vous permettez plus de choses.
Ben justement, voilà, si on peut, il y a un aspect du business où c'est qu'on peut pas vraiment influencer quelque chose, c'est l'innovation, on va dire technique, technologique. Ben on essaye de tirer un peu notre épingle du jeu avec des designs de produits qui sont remarqués ou qui peuvent être remarqués par certains consommateurs, ouais.
Alors Redox exporte ses produits dans 70 pays. Pour une petite entreprise comme la vôtre, c'est quoi le secret pour rester compétitif sur ce marché mondial ?
Être à l'écoute des clients, de bien analyser ce qui se passe sur les marchés, observer ce qui se fait. Il ne faut pas regarder son nombril et puis penser que ce qu'on fait c'est bien. Il faut vraiment être ouvert et à l'écoute de tout ce qui peut être fait et dit. On apprend plein de choses, hein. Chaque fois que qu'on a des rencontres avec, avec nos clients, que ce soit du monde entier, il y a des choses à retirer de ces discussions et de ces rencontres.
Justement, au niveau du contact avec les clients, on a beaucoup parlé de Baselworld ces derniers temps. Pour vous, ça reste une manifestation incontournable pour se faire connaître, pour créer des liens?
Ben, Baselworld, c'est l'endroit au monde qui a la plus forte concentration de professionnels de la branche en un si peu de temps. Donc voilà, pour moi, pour cet argument-là suffit à expliquer que Baselworld, c'est pour le moment et à l'heure actuelle, quelque chose d'indispensable.
Un aspect qui chamboule également la branche, c'est Internet. En quoi ça complique votre travail?
Alors ça, tout le monde cherche un petit peu à apprivoiser cette bestiole qui est Internet. Personne n'a encore vraiment trouvé la solution adéquate parce qu'Internet, qu'est-ce que c'est? C'est une fenêtre qui est ouverte sur le monde entier. Donc vous postez quelque chose ou quelqu'un poste quelque chose sur votre marque à Petauschnock, ce sera visible dans le monde entier dans la seconde qui suit. Et ça, vous pouvez rien faire. Donc vous êtes tributaire en fait de ce que les gens peuvent mettre ou ce que vous mettez. Voilà, donc ça a complètement chamboulé le business. Et ça, on doit vraiment s'approprier ou s'habituer à cette nouvelle donne qui ne va pas disparaître demain, quoi.
Et justement, est-ce que vous arrivez déjà à en tirer avantage?
Alors on essaye, on y va un peu à tâtons parce qu'on veut pas... vous savez, quand vous construisez une marque où vous êtes présent justement dans 70 pays, c'est difficile de construire ce réseau et puis d'avoir la confiance des clients. Donc après, suivant ce que vous faites, ça peut très vite descendre, quoi. Donc il faut vraiment faire gaffe à pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que oui, on essaye... on fait quelques expériences avec Internet, notamment la vente en direct sur certains marchés, ce qui est assez positif, mais faut y aller vraiment sur la pointe des pieds.
Avant de se tourner vers l'avenir, Alexandre Strambini, je vous propose de faire une petite pause. On reste toutefois dans le domaine de l'horlogerie, car comme chaque jeudi, c'est Marie-Lise Saillard qui nous propose sa chronique pile à l'heure.
Pile à l'heure.
Elle est ronde. Elle est connue. Elle est mondaine. Mondaine, c'est le nom d'une marque et par extension le nom donné au produit le plus fameux de cette marque, l'horloge des gares suisses.
Changeons de voie pour la S1 pour Yverdon-les-Bains. Départ 16h04, partira de voie 9.
Vous l'avez forcément vu, cette horloge ronde avec un cadran blanc, des index rectangulaires noirs, les aiguilles des heures et des minutes noires et la trotteuse rouge, c'est une fine aiguille rouge terminée par un gros point rouge. Cette horloge est donc célèbre parce que c'est celle que l'on voit dans les gares suisses, c'est devenu une icône.
Tu es ma star, tu m'illumines dans le noir.
Un ingénieur des CFF, Hans Hilfiker, a créé le modèle, lancé en 1944. La marque mondaine plus récente a ensuite décliné le modèle d'horloge en montre-bracelet. C'était en 1986, l'année où mondaine a demandé et obtenu une licence exclusive pour l'appellation montre officielle des CFF et l'utilisation du logo CFF, SBB et FFS. Et quand on vous dit que ce produit est devenu une icône, on ne vous ment pas. La fameuse Swiss Railway Watch a rejoint des collections de renom. Par exemple, celle du MoMA à New York. Ou encore le musée Guggenheim à Bilbao. En 2013, Apple a dû conclure un contrat de licence avec les CFF. La marque à la pomme utilisait jusque-là sans autorisation le célèbre design de l'horloge. Le système d'exploitation mobile iOS 6 comportait une icône au design identique à celui de l'horloge mondaine, icône supprimée et remplacée par une autre dans la version suivante. Horloge murale, horloge de bureau, montre de poche, montre avec bracelet cuir ou acier, petite taille ou plus grande, quartz ou automatique, mondaine décline le même design de multiples façons. Les prix des produits varient de 195 à 850 francs à voir directement sur le site des CFF.
Pile à l'heure.
Alexandre Strombini, c'est important de se différencier, de sortir du lot. On le voit avec cette marque mondaine qui décline l'horloge CFF à toutes les sauces. C'est aussi une volonté de votre part d'apporter une certaine plus-value avec vos produits.
Ah ben, toutes les marques essayent d'être différentes des autres, hein, même si à la fin, une montre, elle donne l'heure. Hein, donc, c'est compliqué de trouver le mouton à trois pattes ou à cinq pattes. Hein, donc, c'est important. Voilà, c'est une constante recherche. C'est la quête du Graal, comme on dit. Donc c'est ça qui rend aussi le métier intéressant.
Justement, à ce niveau-là, il y a la volonté de développer cette recherche aussi de votre côté à moyen, long terme.
Ben c'est constant. On a certaines discussions sur les produits là. Chaque fois après Baselworld, là, que c'est terminé il y a 15 jours, il y a beaucoup d'émulation sur les produits parce qu'on entend plein de choses. Donc il faut trier le bon du moins bon. Et oui, il y a des choses qui vont être travaillées. Il y aura un peu de recherche qui sera faite sur certaines choses, particularités des montres. Ça peut être les bracelets, les fermoirs. Enfin, il y a plusieurs. Il y a pas que le cadran. Oui, il y a une recherche qui sera faite sur certains composants de la montre. Ouais.
Ça, c'est quelque chose sur laquelle vous travaillez déjà ou que vous allez développer encore plus dans le futur?
Alors, on a eu travaillé, on s'est un petit peu ralenti et maintenant, on va de nouveau relancer ce côté-là, cet aspect-là d'une manière plus, on va dire, plus soutenue.
Et en dehors de cette recherche, est-ce que vous avez des projets particuliers, des idées que vous souhaitez développer dans les prochaines années à Edox?
Bon, y a beaucoup de choses. Après, ça touche vraiment à la distribution propre. Hein. Après, ça vient un peu dans le détail et dans le business, dans le daily business, comme on dit. Quoi. Donc, oui, il y a des choses qui vont... Il y a même certainement beaucoup de choses qui vont changer dans le futur, mais pas que pour Edox, hein, pour toute la branche horlogère, quoi. Oui, il y aura des gros changements. Ouais.
C'est quoi, justement, les plus gros défis pour cette branche horlogère?
Actuellement, c'est Internet. Voilà, donc c'est clairement un immense défi. Ça vous donne un contact direct au consommateur final, ce qui était quelque chose qu'on n'avait pas, qu'on ne connaissait pas. Et maintenant, on sera amené à répondre au consommateur final en direct, quoi. Jusqu'à maintenant, vous vendiez des montres à un distributeur, qui vendait des montres à un détaillant, qui vendait des montres à un consommateur final. Et maintenant, le consommateur final, il vous pose des questions directement à vous. Donc, il y a beaucoup plus d'interactions avec le consommateur. Et ça, c'est quelque chose de différent. Et ce n'est pas le même discours que vous allez faire à un consommateur final qui n'a pas forcément une connaissance dans l'horlogerie qu'à votre distributeur qui distribue plusieurs marques. Donc, c'est une adaptation qui devrait être faite. Ouais.
Mais ce lien étroit, ça peut aussi être un avantage pour vous aussi.
Ah ben complètement, oui. Après, vous discutez, vous conversez directement avec les clients qui achètent vos produits. Donc, c'est clairement un avantage. Ouais.
Alexandre Strombini, nous arrivons déjà au terme de cette émission. Merci d'avoir été avec nous pour parler donc de votre entreprise, mais également de votre parcours de tennisman professionnel à chef d'entreprise. Bonne soirée.
Merci à vous, bonne soirée.
Cette émission ainsi que celle des semaines précédentes sont à retrouver sur la page de sortie de boîte sur notre site internet RJB, RTN et RFJ.ch. Merci à Sandra Jeulin pour la technique et je vous souhaite une très belle soirée. Sortie de boîte.